Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Par les temps qui courent, c'est une heure d'entretien tous les soirs avec les artistes dans l'actualité culturelle et ce soir avec l'écrivain Nicolas Mathieu.
Un tango, une danse, un baiser.
Tu peux taper, péter, péter.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans cet moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Le shit, ça fait ça. On croit qu'on ne rêve plus. On dort, et au matin, pas d'image. Et l'humiliation de classe, ça peut faire ça aussi, on croit qu'on ne rêve plus. Ou plus concrètement, qu'il n'est pas possible de traverser un lac pour aller voir commencer la vie sur l'autre berge, pas possible d'aller dans cette fête, de draguer cette fille, de lire ce livre ou d'en écrire. Et puis même si ça coûte un bras, ou un père noyé, ou des dizaines de râteaux, parfois la traversée devient possible. Ce lac qui figure dans votre roman, Nicolas Mathieu, c'est presque le fleuve mythique du Styx, frontière entre la vie et la mort, l'enfance et l'âge adulte, l'époque industrielle et celle qui vient après. Dans une vallée désindustrialisée imaginaire, vous écrivez quatre étés de plusieurs jeunes gens, parmi lesquels Assine, Anthony, Steph et Clem entre 1992 et 1998. C'est un texte où la violence et le désir peuvent circuler aussi prestement qu'une Yamaha YZ volée et lancée à toute vitesse dans la nuit. C'est aussi un texte qui vient d'être primé par l'Académie Goncourt. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Leurs enfants après eux est publié aux éditions Actes Sud et il est entre autres liste sur celle du prix du roman des étudiants de France Culture Suspense.
Généralement, ça part d'une abstraction complète. Je pars pas d'une intrigue ou d'un fait divers ou de personnage, mais je me dis, ah ben tiens, j'ai envie de dire quelque chose sur le terrorisme, ce que j'en pense, ou je me dis, comme je suis en train de faire en ce moment, enfin depuis 6 mois, 1 an, j'ai envie de parler du cinéma, qu'est-ce que c'est le cinéma, quel effet ça fait, comment ça fonctionne. Et je pars sur une idée comme ça. À partir du moment où je me dis j'ai envie de faire quelque chose qui traite du cinéma, ça ne me donne pas du tout un polar. Alors j'attends qu'il y ait des incidents qui me tirent l'œil, que j'ai un thème d'action que j'ai envie de mélanger avec le thème abstrait que j'ai eu au départ. Mais en revanche, à partir de là, il absorbe tout ce qui me tombe sous la main. Je lis des faits divers, n'importe quel bouquin, je vois n'importe quel film, quelque chose va se détacher de ce que je vois et venir s'agglutiner à mon idée. Et progressivement, il y a une intrigue qui se forme, je commence à avoir des gens et des actions. Et quand tout ça est relié, mais ça se fait tout seul, pour ainsi dire, quand tout ça est relié, j'ai un polar, il n'y a plus qu'à l'écrire, comme dirait l'autre.
C'est la voix de Jean-Patrick Manchette qui est complètement perdu dans les voitures. En 1983, cette archive pour commencer, Nicolas Mathieu, d'une part parce qu'il n'est peut-être pas étranger à l'idée que vous écriviez, d'autre part parce qu'il dit « ça commence comme ça ». Ça commence comme un mélange entre un thème abstrait et un thème d'action. Leurs enfants après eux, ça commence comment ?
C'est marrant d'ailleurs qu'ils disent « ça commence comme ça », parce que ça a commencé comme ça. Ouais. C'est la première phrase d'un roman aussi qui m'a beaucoup influencé. Comment ça commence ? Ça commence peut-être d'abord avec le précédent roman dans lequel il y a des personnages d'ados qui s'étaient un peu imposés à moi et avec lesquels j'en avais pas fini à la fin du bouquin. Peut-être aussi parce que j'en avais pas fini avec ma propre adolescence et que finalement j'ai poursuivi cette chose-là, enfin ce récit-là par d'autres moyens dans le deuxième roman. Et puis, ça commence aussi avec des images et des affects. C'est-à-dire que peut-être le moment où le roman débute, c'est je vois Anthony, qui est le personnage principal. Je vois chevauchant une moto, une 125, tête nue, torse nu. Il va à fond de train sur une départementale. Il fait très chaud, c'est l'été. Et je sens exactement quelle est sa rage et sa limite. Et voilà, c'est sur cette vibration-là que ça commence, c'est qu'il faut rendre ça.
Et il faut le rendre avec une langue, c'est la première chose, je trouve, qui s'installe même presque avant les images ou avant les êtres qu'on va suivre pendant tous ces étés. C'est l'idée qu'il y a une langue. Et j'imagine, moi j'ai pas lu le précédent livre, mais qu'il a fallu la trouver aussi, celle-là, cette vibration. Est-ce qu'elle diffère de, par exemple, ce dernier roman dont vous parliez? Est-ce que c'est une langue qui s'est imposée facilement? J'ai envie qu'on en parle parce que je trouve qu'elle est absolument tenue jusqu'au bout.
Non, moi je crois que c'est finalement, j'ai 40 ans, j'ai écrit que deux romans. Je crois que j'ai trouvé très très tard à la fois mes motifs, ce dont j'étais capable de parler, et puis ce style, cette langue-là. C'est la même dans le premier. Ça, c'est sûr. Et elle est venue malgré moi. En fait, je m'en suis rendu compte rétrospectivement. Et c'est une langue, finalement, qui me ressemble. C'est-à-dire qu'elle fait sans cesse des allers-retours entre des registres populaires, prosaïques, une langue presque grossière, et puis un langage plus tenu, plus légitime, plus savant parfois, et ces allers-retours, elle les fait parfois dans la même phrase, en fait. Et c'est une partie du style pourrait s'expliquer comme ça. Mais encore une fois, quand je le fais, j'en suis pas conscient, quoi. Et puis, il y a aussi des articulations, des culs par-dessus tête, des moments de friction, et une recherche de percussion. Une ironie un peu tout le temps quand même. Je crois que c'est ça qui la qualifierait.
Quand vous dites j'ai 40 ans, je n'ai écrit que deux romans et cette langue finalement je l'ai trouvée avec le premier livre, ça veut dire que vous l'avez cherché ?
Oui, moi j'écris depuis que j'ai 8 ans, donc ça a été très très long. Et longtemps j'écris des trucs mal fichus, un peu chiants. En fait, j'écrivais pour devenir quelqu'un d'autre. Et le moment où ça a pris, où ça a mordu, où c'est devenu intéressant, je pense que c'est quand j'ai changé mon fusil d'épaule, que je me suis plus servi de l'écriture comme un viatique, comme un mode de transport, comme une rampe de lancement, mais pour parler de ce que je connaissais. Voilà. Donc ça s'est passé quelque part en 2007-2008, je crois, parce que j'avais là, dans le cadre de l'expérience professionnelle que j'avais à ce moment-là, je voyais plein de plans sociaux, etc., et que j'ai renoué avec mon monde d'origine.
Il faut quand même dire que cette expérience professionnelle, c'était d'être greffier. Ouais. Et donc, il fallait écrire ce qui se disait.
Exactement.
Alors, il fallait dire avec une langue, la langue des autres.
C'est ça. Alors, c'est greffier, c'est-à-dire, oui, je faisais les minutes de réunion, en fait. J'assistais à des réunions interminables. Et pendant 3, 4, 5, 6, 7 heures, je tapais tout ce qui se disait en prenant le langage oral que j'entendais et puis en le transmuant en langage plus soutenu à l'écrit. C'était ça, mon job. Mais peut-être plus que ce travail d'écriture, ce que ce job m'a apporté, c'est un sujet et puis une position. C'est-à-dire que c'est là que je me suis senti à l'aise aussi en tant que... Finalement, je suis pas un acteur, je suis un voyeur. Je regarde les choses qui se disent, je les écoute, et puis...
C'est-à-dire que vous n'étiez pas ceux qui racontaient les plans sociaux. Vous étiez celui qui écoutait ces plans sociaux racontés et qui les retranscrivait.
Ça va même plus loin que ça, parce que non seulement je suis pas celui qui les raconte, je suis pas celui qui les énonce, mais à la limite, je comprends les raisons de tout le monde. Et c'est ça aussi la position d'auteur que j'ai trouvée. C'est que un auteur, il n'est pas là pour poser des jugements, il est là pour restituer un monde. Et dans un monde, tout le monde a ses raisons. Et il faut donner sa chance à chacun. Il n'y a pas de personnage, même dans le roman noir, le premier, il n'y a pas de personnage tout à fait pourri ni tout à fait bon. On est toujours dans les... Chacun a ses raisons. Et si le job est bien fait, le lecteur doit pouvoir s'identifier à chacun, avoir de l'empathie, même pour les plus pourris.
On commence par la voix d'un auteur, Jean-Patrick Manchette, aussi pour vous évoquer en tant que lecteur. C'est quelque chose qui arrive parfois en filigrane chez certains des adolescents que vous dépeignez dans Leurs enfants après eux. C'est l'idée que, j'ai en tête cette phrase, il fallait lire. Est-ce qu'il a fallu lire? Qu'est-ce qu'il a fallu lire pour vous, Nicolas Mathieu, pour trouver cette langue-là dont on parle?
Il a fallu lire déjà beaucoup, c'est-à-dire que... La lecture, c'est compliqué parce que c'est à la fois c'est comme trouver un passage à travers la banquise. On voit bien que la lecture, elle m'a mené vers un en dehors de mon milieu, c'est sûr. C'est que j'ai commencé à voir qu'il y avait d'autres choses qui existaient, à avoir les outils pour juger de l'endroit où j'étais, et puis à avoir des envies d'échapper belle. Et puis après, il y a eu des lectures vraiment émancipatrices. C'est-à-dire que quand on lit Bourdieu ou Annie Ernaux, qu'on a ce sentiment de mais oui, il n'y a pas de raison d'avoir honte en fait. Des lectures, elles nous servent à vaincre des complexes, à déconstruire des soumissions, à surmonter des hantises. Enfin voilà, les livres, c'est comme des grenades, elles vous feraient un chemin.
Il y en a un autre qui dit ça et qui le répète depuis des années, c'est Pierre Bergoglio. Il dit tout le temps, il n'y a pas de place pour l'innocence, il faut lire, il faut lire.
Je cherchais le livre qui me dirait quel je, nous, étions. Oui, sachant que les formes les plus hautes de conscience sont consubstantiellement liées à la culture écrite, graphique. Il n'y a que par le truchement de la plume et du papier qu'il soit permis de lever le mystère, de dissiper les énigmes dont le monde est par essence, par nature, par définition, encombré aux yeux des bipèdes pensifs que nous sommes. Donc j'ai passé mon temps à chercher et je ne l'ai pas trouvé. Alors dans un premier temps, j'ai considéré que c'était ma faute, je ne savais pas chercher. Donc je suis allé frotter ma couenne à la couenne d'autrui et découvert que si c'est en vain que j'avais cherché ce livre qui m'aurait tout dit, ben c'est parce qu'il n'existait pas et qu'il était resté dans l'encrier. J'aurais aimé recevoir, au sortir du ventre maternel, la petite liasse de feuilles dactylographiées sur laquelle j'aurais découvert, au sens strict du terme, la légende, ce qui doit être lu. Et il m'a fallu atteindre la trentaine pour me poser la question terrifiante de savoir si ce petit livre que j'avais cherché, je ne pourrais pas le barbouiller, puisque manifestement mes compatriotes n'en possédaient pas auparavant la capacité, et que ceux qui écrivaient des livres se moquaient éperdument de la vie chétive, obscure que nous menions dans nos guérets. J'ai vu mourir un monde, j'ai encore vu travailler les bêtes, les hommes parler aux bœufs, un bœuf ça fait 800 kilos, ça peut atteindre une tonne, une couple de bœufs, donc 2 tonnes de viande, obéissaient à la voix, aux injonctions qu'un gringalet de 60 kilos accroché au mancheron du brabant ou de la charrue leur adressait. Et aujourd'hui je parle avec des automates et des ordinateurs.
C'est la voix de Pierre Bergoglio, c'est tiré d'une série qui a été tout récemment diffusée sur France Culture et consacrée au livre manquant. Et il dit ça, il raconte souvent combien il a cherché un livre qui dirait quel je, quel nous il était, et combien il s'est cassé les dents et les yeux sur les rayons bibliothèques sans voir sa vie et la vie de ses pères écrites dans les pages des livres. Est-ce que vous avez cherché un livre qui racontait ses adolescents, ses enfants, cette vallée, ces villas? Avant de l'écrire.
En tout cas, je pense que à l'adolescence, on cherche vraiment des livres miroirs. Moi, je me souviens très clairement du soulagement que j'éprouvais en lisant des livres. Je me revois enfin dans mon lit lire et puis me dire mais oui, mais c'est exactement ça. Et non seulement ça permet de se construire, mais c'est un tel soulagement. Enfin, il y a un espèce de continuum de solitude qui est rompu à ce moment-là où on se dit je ne suis pas seul. J'ai une vision de l'écriture assez martiale. Je pense que l'écriture, c'est fait pour se battre et rendre les coups. Et je crois que les livres, ça crée des communautés d'alliés. Et que quand on trouve un allié, c'est comme quand on se fait un nouvel ami, quoi. C'est vraiment un grand moment d'intensification de notre puissance, quoi. On sait qu'on n'est plus seul. Donc, c'est pas que j'ai recherché le livre manquant, le livre idéal, celui où tout aurait été dit, mais je me cherchais, et puis ça continue en réalité. Je sais que quand ça va mal, ce qui arrive par cycle assez régulier, je peux lire, il y a des bouquins dont je sais par avance que je vais retrouver un ami. La correspondance de Flaubert, des trucs comme ça, quoi. Je sais que tout de suite, il va y avoir un sentiment de connivence, de détestation mutuelle de la bêtise, de détestation conjointe plutôt de la bêtise. Donc, ouais, c'est... Lire, c'est aussi faire une guerre à la vie, quoi.
Quand tout à l'heure Jean-Patrick Monchette disait ça a commencé comme ça, et quand Pierre Bergougnou dit moi j'ai vu mourir un monde, et écrire c'était aussi dire que je l'avais vu, on pourrait aussi se dire, Nicolas Mathieu, que ça a pu aussi commencer comme ça pour leurs enfants après eux, c'est-à-dire dire que vous avez vu.
Exactement, ouais. En tout cas, moi j'ai eu le sentiment d'assister à la mort d'un monde quand je faisais ces procès-verbaux.
Lequel de Réunion, pour le dire un peu.
La classe ouvrière. En 2007-2008, au moment de la crise des subprimes, j'ai fait plein de plans sociaux.
Et puis, pas notamment, vous. C'est pas vous qui faisiez les plans sociaux.
Non, j'y assistais. J'écrivais les minutes des comités d'entreprise dans le cadre desquels ces affaires-là se réglaient. Quoi. Donc, il y avait une direction à un bout de la table, une représentation du personnel à l'autre bout avec des intérêts évidemment antagonistes. Et moi, je tapais ce qui se disait là. Et il y a des centaines de, des dizaines de milliers d'emplois qui ont été détruits à ce moment-là. Et j'avais vraiment le sentiment d'assister au dernier feu de la classe ouvrière. Il reste des ouvriers, il reste des usines, il restera toujours des petits salariés. Mais là, c'était vraiment là. Il y a des pans entiers qui ont dégringolé. Et puis c'était la fin de cette destruction-là qui avait commencé dès les années 70. Et c'est le monde qui finissait, je me suis rendu compte. Là, c'est dans le corps que ça se passe aussi, dans le regard qu'on porte dessus. Que c'était aussi le monde de mes origines, notamment de mon père, en fait, qui a vécu, qui fait partie d'une famille de 10 frères et sœurs, qui a passé beaucoup de temps sur les chantiers, avec ce que ça compte d'efforts, de peines et de grande camaraderie. Lui, il en a des souvenirs qui sont excellents. Et quand on assiste à la fin d'un monde, la moindre des choses, c'est de la raconter, quoi. Donc, j'ai trouvé mon sujet. Là, j'ai cessé d'écrire pour devenir quelqu'un d'autre, pour trahir mon monde. J'ai payé ma dette, plutôt.
Est-ce que ça va sans trahison de payer sa dette?
La trahison, elle était antérieure. C'est-à-dire que moi, je viens d'un milieu dont très vite j'ai voulu partir. En plus, ce milieu-là, mes parents m'ont donné les moyens de le trahir. C'est ça qui est très ambivalent. C'est qu'on va en même temps... c'est la double injonction, alors ça c'est vraiment archi connu, qui concerne tous les transfuges, c'est qu'on vous donne les moyens de vous arracher, et puis qu'en même temps on vous dit « mais pour qui tu te prends, est-ce que tu te crois supérieur ?» Eh bien oui, puisque vous m'en avez donné les moyens. Donc on est toujours dans ces ambivalences-là, ce qui fait qu'on n'est jamais de nulle part, mais bon, voilà, dans ce nulle part-là, on voit les choses, quoi, et c'est un bon poste d'observation.
Vous dites que ça se passe dans le corps, cette espèce d'écho qui se passe au moment de la retranscription des minutes. Et dans le livre, tous ces jeunes gens, et peut-être particulièrement Anthony, en effet, ils parlent de la vallée, de ces humains, de ces usines, de ces ruines d'usines, de ces enterrements, de ces appartements, de ces fêtes, de ces motos, comme presque des pièces de sa mécanique interne, quoi. C'est vraiment son squelette, c'est vraiment quelque chose qui est tatoué. Ça veut dire que ça a été aussi une écriture physique, enfin c'est passé par le corps aussi d'écrire ce roman-là.
En tout cas, le roman, il raconte comment des mômes veulent s'arracher au monde dont ils viennent. Et c'est un arrachement qui est impossible parce qu'en fait, ces mondes-là, ils passent à travers vous et vous les embarquez partout où vous allez. Que ce soit le climat, les visages, les attitudes corporelles, les paysages, tout ça, vous l'emportez. Donc, en fait, c'est des exils impossibles. Moi, j'ai voulu partir d'Épinal à tout prix, la ville où j'ai grandi, où j'ai passé mes 18 premières années, parce que j'y ai tout fait, que je trouvais que c'était trop petit, qu'on en avait trop vite fait le tour, même à scooter. Et puis, quand j'y rentre, il y a une certaine qualité de lumière, il y a des odeurs, il y a des manières de bouger, des accents qui me disent tous, tu es chez toi. Et je n'y peux rien. Donc...
C'est pas qualifié de morale, c'est pas bien ou pas bien, c'est juste un fait en fait.
Oui,
c'est
aussi voilà.
Énormément ce que dit le roman, c'est que être chez soi, qu'il s'agisse d'Anthony des autres ou du père de Hassine quand il fait construire une maison en Afrique du Nord, voilà, ça veut dire quelque chose d'être chez soi.
Oui, en tout cas dans ce roman, et puis moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est une double impulsion, c'est une volonté d'échapper belle et puis une impossibilité de quitter. On est toujours pris, c'est une espèce de jeu de jokerie en fait, plus on part loin, plus on revient fort, quoi. Mais cette situation d'entre-deux, elle est aussi sociale, c'est-à-dire que quand on quitte un milieu, on n'en est plus, mais en même temps, on n'atterrit jamais dans le milieu supérieur, parce qu'il faut être né dans un milieu pour lui appartenir. Donc voilà, que ce soit géographiquement, socialement, ces gamins, ils sont... C'est du devenir, quoi. Bon, après, c'est un roman d'apprentissage, voilà, il s'agit jamais que de devenir. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Nicolas Mathieu.
Et voilà, vous ne coupez pas à Nirvana, parce que vous découpez votre livre, Nicolas Mathieu, avec des morceaux, dont celui-ci. Et ça nous permet d'une part de questionner la manière dont le temps est scandé par King Nirvana, Guns N' Roses, NTM, et j'en oublie un qui est...
Gloria Gaynor.
Gloria Gaynor. Ah, c'est la fin, c'est la Coupe du Monde. Qui est quoi pour vous? Qui est une manière juste d'attraper des choses très fortes de l'époque pour les donner justement à sentir?
Alors il y a ça, il y a un côté repère chronologique et puis c'est la bande-son d'une époque. Et pour ceux qui y ont grandi, il y a un effet Madeleine évident, c'est-à-dire que ça fait remonter à la surface des sentiments. Il y a autre chose, c'est que chaque morceau dont il est question et qui ouvre une partie du roman, ça concerne aussi ce qu'il y a dans la partie en question. Ça commence avec « Smell like teen spirit », ça se poursuit par « You could be mine », puis « La fièvre » un soir de 14 juillet et enfin « I will survive ». À chaque fois, ça donne, ça parle de ce qui se dit aussi dans le roman. Puis moi, il y a un truc qui est plus important encore pour moi et qui est une espèce d'éthique des chansons humbles. C'est que de la même manière que je pense que les vies minuscules dont il est question dans le roman, j'essaye de les quelque part aussi de les héroïser. en faisant notamment le titre, il se réfère directement à un passage de la Bible. Donc ça montre aussi la grandeur de ces vies de rien, le retentissement à travers le temps des vies anonymes. Et de la même manière, ces chansons populaires qui ne sont rien, je pense qu'elles ont une... Si on les regarde du bon point de vue, si elles sont attachées à des souvenirs, il y a une verticalité dedans qui est celle des cathédrales. Ça peut être immense.
C'est marrant d'ailleurs de reprendre ce mot d'Emmanuel Macron qui ne sont rien.
Ah oui.
Les gens qui ne sont rien, qui passent dans les gares. Parce que, en fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse que vous écrivez, Nicolas Mathieu.
Exactement, oui.
Vous n'écrivez pas du tout des gens qui ne sont rien, ni même ces chansons ne sont. Enfin, à aucun moment on pourrait considérer qu'elles ne sont rien.
En tout cas, c'est des rapports de légitimité.
D'accord.
C'est-à-dire noble, non noble, important, qu'il est moins, etc. Évidemment, moi, je ne considère pas que c'est rien, puisque pour moi, c'est tout. Mais
vous empruntez une expression plutôt de l'extérieur, quoi. C'est la manière dont ils sont désignés.
Ouais, bah peut-être aussi pour montrer qu'en parler, c'est déjà mener une bataille politique contre cette vision-là, quoi. Ces gens qui ne sont rien, ils me sont tout. Bon, voilà. Et encore dans le roman, finalement, je parle pas que de gens qui appartiennent à des catégories dominées de la société. C'est une peinture qui est assez qui part de très bas et qui va jusqu'en haut, quoi. C'est le modèle, c'était un peu, vous savez, dans ces vieux manuels de lettres, quand on arrivait à la page Balzac, il y avait une maison parisienne en découpe où on partait du rez-de-chaussée et on montait jusque sous les toits et on voyait toutes les classes sociales. Bon, c'est un peu ça l'idée, c'est de restituer un monde dans sa verticalité, dans son horizontalité, parce que il y a aussi beaucoup question des différents espaces, comment ils sont forclos et en même temps comment ça circule sans cesse. Beaucoup à cyclomoteur. Et enfin, la quatrième dimension, c'est le du temps, parce que ça dure sur 10 ans, puis on voit ce que le temps fait aux gens, à leur corps, à leurs illusions, à leurs ambitions.
D'ailleurs, quand on entendait cette guitare nerveuse de Nirvana, moi je pensais beaucoup à la mécanique de ces bolides qui sont lancés dans la vallée. C'est vraiment sans dire, et j'espère vraiment qu'on va s'y tenir, des choses qui relèvent presque de votre genre premier, qui était le roman noir et le suspense, etc. Parce qu'il y a des choses de cet ordre-là dans Leurs enfants après eux. Mais quand même, est-ce qu'on peut essayer, sans rien dévoiler, de dire l'importance de ces motos, mobilettes, choses à moteur, dans votre roman, Nicolas Mathieu? Sans rien dire de l'intrigue.
Oui, oui. Déjà, dans ces espaces-là, de la France périphérique, selon le terme récemment consacré, les moyens de déplacement sont un problème. C'est un problème pour tout le monde. Il faut se déplacer. La moto, le scooter, etc., c'est le premier ferment de liberté qu'on s'acquiert quand on est ado. Et puis, c'est aussi une scansion de l'espace, quoi. Tout le long, dans le roman, on entend ces motos qui passent, qui filent. Un peu comme dans La vie de Jésus de Bruno Dumont, où on voyait les villages traversés par des mobs comme ça. Et c'est un son, mais c'est aussi une vitesse. Et puis voilà, ils ont la rage, et ça s'exprime effectivement par ça. Enfin, les moteurs, l'odeur de l'essence, la recherche de la vitesse maximale. C'est un roman sur l'adolescence. L'adolescence, c'est quand même ce moment où on poursuit sa limite, et ça passe par le désir, l'ivresse, mais aussi la vitesse. Et Anthony, c'est vraiment un personnage qui cherche sa limite jusqu'à la chute. Et la moto, là-dedans, c'est un instrument privilégié, à la fois de liberté, d'échappée belle, d'enivrement, et puis aussi, il y a un côté un peu suicidaire, quoi.
D'ailleurs, si on pense à ces espèces de manèges comme ça, très très dangereux, où les motos vont hyper vite dans des cylindres, il est suivi dans cette quête de vitesse et d'ivresse par Hassine, qui à plusieurs moments, que ce soit sur des bolides à deux roues ou bien plus tard dans une voiture revenant très 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 vite du Maghreb, d'une certaine manière, ils se courent après, les deux là. Ils sont presque des relais l'un de l'autre.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film The Place Beyond the Pine, où on voyait justement le personnage principal au départ, qui est dans une fête foraine, je crois, et son métier, c'est d'aller très 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 vite dans une boule en métal à moto, comme ça. Ils sont trois dedans.
C'est
ils
la
doivent
roue
aller...
de la mort.
Voilà, exactement. Surtout, c'est chercher le point de vitesse maximale sans jamais pouvoir aller nulle part. Et ils sont un peu comme ça. Il y a un côté très circulaire dans le roman où et tout tourne. Cette vallée-là, elle fonctionne comme un évier avec le lac au milieu et qui siphonne tout le. Et comment on s'arrache à cette attraction, oui, il y a des forces qui les tiennent là et chacun essaye de prendre son élan le plus possible pour partir loin, finalement. Il y en a une qui va comprendre que la rampe de lancement, c'est l'école et pas la moto, et qui va pouvoir s'en sortir.
D'ailleurs, je parlais de ce lac-là parce que plus ça avance et plus moi je l'ai trouvé presque radioactif, magique, mythique, ouais, mythologique. Et j'ai vraiment pensé au fleuve de l'enfer, en fait, c'est-à-dire cette espèce d'espace de lien entre un monde et l'autre. Est-ce que petit à petit, dans la géographie du roman, parce que c'est une forme, on disait, qui est hyper quadrillée, très maîtrisée, on parlait de la suspension du temps à la verticale avec les chansons, celle à l'horizontale avec les motos, le temps qui passe, etc. Et puis ce point central, il vous est apparu rapidement que ce lac-là, ce serait un des cœurs de l'action.
Dès la deuxième page, il est question d'un gamin qui s'y est noyé alors qu'il venait d'avoir une mention très bien au bac. Et il y a un espèce de pouvoir maléfique de cette vallée. Il y a le destin social, le destin géographique s'impose aussi comme un truc qui happe ceux qui veulent en partir, quoi. Dès le départ, il y a une menace comme ça. C'est un lac aussi qui ressemble à un trou noir. Les eaux sont décrites comme du pétrole au départ. Donc effectivement, il y a toute une force d'aspiration, de gravité. Voilà. C'est un trou noir, une puissance gravitationnelle extrême. Comment ils font pour pouvoir décoller malgré tout?
La première chose qu'ils font, c'est qu'ils volent un canoë pour le traverser.
C'est ça. Alors, voilà, parce que il faut bien que tout commence. Donc effectivement, ils volent un canoë pour aller sur la plage en face, dite des Cunus, où ils espèrent voir. Parce que bon, c'est un truc sur l'adolescence, hein, les hormones travaillent très très fort. Et on leur a dit que de l'autre côté, il y avait des naturistes. Et ils prennent un canoë pour aller voir de quoi ils retournent exactement. Et mal leur en prend.
C'est un âge très particulier auquel on reproche très souvent trop de bruit ou trop de silence. Ils parlent pas, ils me disent rien, disent certains parents, ou il fait trop de bruit, il casse tout, il s'agite. Bon. Et c'est un âge particulier aussi par le fait qu'il est le siège de tellement de bouleversements, d'émotions nouvelles, que sur le moment, il n'y a pas possibilité de mettre ça dans sa mémoire avec des mots adaptés à l'intensité des bouleversements ressentis et subis. Ce qui fait que plus tard, quand on a quitté l'adolescence, si tant est qu'on la quitte totalement, il est bien difficile pour les adultes de remettre des mots sur ce qu'ils ont pu vivre à cette période de la vie, parce qu'au fond, la mémoire est basée aussi sur les capacités qu'on a eues de désigner ce qui nous arrivait. Et paradoxalement, on trouve une sorte d'amnésie juvénile chez l'adulte, plus grande, plus importante parfois que l'amnésie de l'enfance, sauf bien sûr pour les premières années de la vie.
Il a beaucoup de fonctions, la première étant d'être du côté des initiés, alors qu'avant on était du côté des non-initiés. Et initiés à quoi? Initiés à la question de la mortalité et de la sexualité en général. Donc il succède à durée variable à la puberté, au changement du corps, et destiné à marquer justement ce passage de l'autre côté, sur l'autre rive, c'est-à-dire de celles et ceux qui sont désormais à considérer comme faisant partie du groupe des initiés.
Depuis l'adolescence, Vanessa se donnait des airs. Sa fac de droit ne faisait que confirmer le sentiment familial, elle se croyait supérieure. Elle s'était pourtant montrée plutôt frivole jusqu'à 15-16 ans, et puis en première, il s'était produit un choc. Elle s'était mise à bosser, soudain horrifiée à l'idée de rester à Hélange pour mener à son tour une vie peinarde et modérément heureuse. Peut-être que l'illumination était venue en cours de sociaux, ou en faisant les courses Leclerc avec sa mère. C'est en tout cas à ce moment-là qu'elle avait commencé à prendre ses distances avec Karine Mougel, la frangine du cousin, sa meilleure copine de toujours. Résultat, elle avait fait des étincelles au bac et poursuivait maintenant des études de droit, tout le temps fourrée à la bibliothèque avec ses manuels soporifiques, ses fiches Bristol et trois couleurs de Stabilo constamment angoissées. Quand elle rentrait le week-end, elle trouvait ses parents occupés à mener cette vie dont elle ne voulait plus, avec leur bienveillance d'ensemble et ses phrases prémâchées sur à peu près tout. Chacun ses goûts, quand on veut on peut, tout le monde ne peut pas devenir ingénieur. Vanessa les aimait du plus profond et ressentait un peu de honte et de peine à les voir faire ainsi leur chemin, sans coup d'éclat ni défaillance majeure. Elle ne pouvait pas saisir ce que ça demandait d'opiniâtreté et d'humble sacrifice, cette existence moyenne, poursuivie sans relâche, à ramener la paye et organiser ses vacances, à entretenir la maison et faire le dîner chaque soir, à être présent, attentif, tout en laissant à une ado déglinguée la possibilité de gagner progressivement son autonomie. Vanessa, elle, les voyait petits, larbins, tout le temps crevés, amers, contraignants, mal embouchés, avec leurs téléstars et leurs jeux de grattage, les chemisettes cravates du père et sa mère qui, tous les trimestres, refaisaient sa couleur et consultaient des voyantes tout en considérant que les psys étaient tous des escrocs. Vanessa voulait fuir ce monde-là, coûte que coûte, et son angoisse était à la mesure de ce désir d'échapper belle. Nicolas Mathieu, c'est un extrait de Leurs enfants après eux. Et juste avant, on entendait la voix de Patrice Huère parler de l'adolescence comme un moment où on passe du non-initié à celui d'initié. Et vous l'avez dit depuis le début de cet entretien, c'est un roman sur l'adolescence. Et juste après, on entend ce petit moment avec Vanessa pour dire que le moment d'adolescence, c'est aussi un moment où on regarde ses parents différemment. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la manière dont vous dépeignez le regard changeant de ces ados, bien sûr les désirs, et on va en parler, mais comment chacun d'entre eux est obligé de regarder celle ou celui qui l'a fait.
Ouais, mais il les regarde et puis surtout il les juge. C'est, on les aime, on les juge, puis on leur pardonne. C'est un peu dans ce sens-là que ça se passe en général de grandir. Et les parents, quand on devient ado, ils passent de statut de demi-dieu à celui de repoussoir. Je crois, pour chacun des gamins, ils se rendent compte à ce moment-là, et quel que soit leur milieu, des limites de leurs parents, et puis aussi de cet héritage dont ils veulent pas du tout, chacun à leur manière, que ce soit Hassine, Anthony ou Steph. Ben voilà, ils vont tuer le père, chacun à leur manière, ils vont vouloir s'enfuir. Pour revenir à l'intervention du pédopsie tout à l'heure, il dit la fin de l'adolescence, c'est quand on devient initié, qu'on a conscience de la mort. Il me semble surtout que la fin de l'adolescence, c'est quand on se met à accepter la règle du jeu. L'enfance, on ignore qu'il y a une règle du jeu. À l'adolescence, on commence à en comprendre les ressorts. Et il nous
du
semble...
jeu social.
Alors, du jeu social. Et puis oui, voilà, pendant l'enfance, tout paraît transparent et allant de soi. Et puis on se rend compte qu'il y a des forces, une règle du jeu, comment fonctionne le monde. Voilà, l'adolescent, il trouve tout dégueulasse, il trouve tout injuste et tout l'irrite. Et puis, à l'âge adulte, en général, il se met à jouer le jeu pour trouver sa place, et puis parce qu'il faut bien participer. Et il me semble que le basculement entre l'adolescence et l'âge adulte, c'est ça, quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait de la règle du jeu? Est-ce qu'on la réfute ou est-ce qu'on la joue?
Et alors, qu'est-ce qu'ils font, selon vous, les adolescents que vous écrivez, Nicolas Mathieu?
Ils vont commencer à la jouer, quoi, mais ils n'ont pas tous la même donne. Alors ça va pas produire les mêmes effets. Mais si moi j'ai peut-être une conscience encore relativement intacte de ce que c'était mon adolescence, que j'ai pas d'amnésie comme ce qu'il a décrit, c'est que moi elle a continué à me sembler vraiment dégueulasse, cette règle du jeu, et que j'arrive pas à me réconcilier avec l'état des choses.
C'est ce qu'on n'est pas obligé, et d'où la rage et la colère dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire que vous dites, tous ces jeunes gens que je lance à toute vitesse dans mon roman, c'est tous des gens qui ont quelque chose à voir avec la rage, la colère, le...
Le monde leur fait insulte, c'est
leur
sûr.
Leur fait insulte, ben, peut-être que ça peut se poursuivre.
La preuve.
Et peut-être que c'est un moteur d'écriture.
Absolument, oui, moi c'est clair que je rends les coups en écrivant. C'est-à-dire que non seulement ça... Le monde tel qu'il est me semble profondément inadmissible. Mais à tous égards, enfin, il n'y a pas que le monde social, ne serait-ce que le passage du temps. Voilà, ça se finira mal pour tout le monde, c'est quand même dur. Alors voilà, avec l'écriture, on rend le monde praticable. C'est pas qu'on le surmonte, il est évidemment pas question de le terrasser, mais on le rend praticable parce qu'on fixe des choses et puis voilà, on donne du sens, quoi. Pas tellement qu'on mette le monde en récit et puis d'un coup ça devienne quelque chose qui vaut le coup, mais voilà, moi j'ai trouvé par l'écriture une place et puis une manière de muer ce qui est insupportable en phrases.
Contrairement à ce que disait la mère de Vanessa dans votre texte, donc les psys ne sont pas tous des escrocs, et Patrice Huberne nous lançait quand même une piste intéressante. Initié à la mort et initié au désir. Je retarde un peu le moment où on en parle, alors que vous commencez par ça, Nicolas Mathieu. Quand même, tout commence par le duvet blond sur la cuisse d'une jeune femme qui émeut Anthony. Et ensuite, beaucoup de choses, je disais tout à l'heure, la rage et la colère peut être l'une des essences au moteur des mobs, des motos et de l'écriture. Mais le désir est l'autre des essences assurément. Ça aussi, c'est pour reprendre ma question après l'archive de Jean-Patrick Manchette, ça commence par là. Ça commence par dire l'intensité du désir à cet âge-là, à ce moment-là.
Oui, puis alors l'intensité du désir, ça c'est sûr. Enfin, on est travaillé, mais très très en profondeur par ça quand on est ado. Et puis aussi une certaine qualité d'amour, c'est-à-dire que c'est des amours unilatérales. Et ça, ça produit des blessures d'orgueil, des bleus à l'âme qui sont peut-être le pétrole le plus puissant au monde, quoi. Et Anthony marche aussi à ça, à la frustration. Et tous, à leur manière, ils sont frustrés. Parce qu'il n'est pas question que... Longtemps, je pensais écrire le bouquin uniquement du point de vue d'Anthony. Et puis, à un bout d'un moment, je me suis dit quand même, c'est Steph, je ne peux pas la voir qu'à travers le regard du garçon, à travers son désir. Alors, elle est devenue un personnage à part entière. Et puis, j'ai commencé à me dire comment ça marche aussi le désir des filles, quoi. Et finalement, le fourmillement de personnages qu'il y a dans ce bouquin, l'espèce de champignonnage comme ça, tout un monde qui apparaît. C'est des questions comme ça de morale du point de vue. Je me suis dit, mais chacun à son tour, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils désirent, quel est son carburant, quelles sont leurs raisons, etc.
Et les filles, elles sont, ou bien, tout à l'heure on parlait des horizons et vers quoi va la moto qui tourne en rond comme ça hyper vite. Les filles, elles sont souvent à un horizon interdit. Il y a une des dernières phrases que prononce Steph, c'est « tu te fais des idées ». Mmh. Vraiment, c'est la fin du monde quand même, quelqu'un qui vous dit ça, qui dit « tu te fais des idées ». Donc elles sont comme ça des horizons interdits, mais ça ne veut pas dire qu'elles-mêmes ne se butent pas à d'autres choses, ne se prennent pas des portes dans la figure. J'ai lu qu'il y avait une jeune femme qui vous avait dit « mais pourquoi, Nicolas Mathieu, avez-vous été aussi vulgaire pour parler du désir des jeunes filles? Pourquoi avez-vous été aussi grossier pour parler de la sexualité? Ce n'est pas que ça. » Qu'est-ce que vous lui avez répondu?
Alors ça, c'était dans le cadre d'une expérience assez traumatique pour moi qui s'appelle le Goncourt des lycéens. On est allé avec d'autres auteurs qui étaient dans la première liste du Goncourt à la rencontre des lycéens de France et de Navarre. Et j'ai été assez surpris de voir que notamment des jeunes filles étaient heurtées par la frontalité de la description du sexe.
Mais c'est pas tant vulgaire que assez cru, comment dire ?
Frontal, moi je dirais. Ouais. Voilà. Alors ça, on se pose des questions quand on écrit des scènes de sexe et quand on parle d'amour. On peut mettre ça, mettre du pastel, faire quelque chose d'un peu diaphane, à contre-jour. Bon, moi, je voulais vraiment traiter ça de manière réaliste comme le reste, quoi. C'était intéressant. Je sais plus quelle pirouette j'ai faite pour m'en sortir. C'était très déstabilisant. Ils étaient 250 devant moi et j'avais d'autres auteurs autour. Là.
Et vous aviez chaud, non?
Un peu, oui. j'ai ramassé mes dents patiemment et puis après j'ai répondu tranquillement. C'était un moment éprouvant. Mais surtout, ça m'a révélé un truc que j'avais oublié dans le roman. C'est que l'adolescence, c'est aussi un âge de la pudeur. Et je crois que pour certains lecteurs, cette frontalité des scènes de cul, voilà, autant le dire clairement, ça a heurté leur pudeur, tout simplement.
Parce que ce qu'on est capable de dire, pour reprendre encore ce que dit Patrice Huère, c'était de retrouver des mots que nous n'avions pas à l'époque pour dire ce que nous vivions, ce qui dit de l'avantage de l'âge adulte sur l'adolescence, c'est aussi votre position d'auteur. C'est que d'un seul coup, vous êtes dans une puissance de raconter cette scène de cul dans une tente qui ne se disait pas. Ces deux ados, là, adolescents encore, quoi, qui font l'amour, qui baissent plutôt, ils se disent pas exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont pas vraiment le langage pour le dire. D'ailleurs, absolument. Le pacte tacite, c'est de pas se le dire.
Exactement. Oui, et puis, alors, effectivement, et puis, au-delà du fait que je mets des mots dessus qui fixent les choses et qui les jettent à leur figure, il y a leur regard de leur père. P-A-I-R-S. C'est-à-dire que je suis pas sûr que ça les choque tant que ça quand ils lisent ça chez eux à l'abri.
Les lecteurs.
Oui, mais dans le groupe classe, oui, apparemment, ça posait des questions liées à la pudeur, à ce qu'il est admissible de dire. Et puis aussi, il y a des lycéens, sans doute, qui sont très bien intégrés au fonctionnement scolaire et qui ont un respect assez, comment dire, qui admettent le fait que la langue, ce soit quelque chose qui les regarde en surplomb, qu'il faille la respecter, que c'est une espèce d'idole intouchable. Et introduire des mots indécents dans cette langue-là, c'est lui faire offense. Donc, il a fait tout ça. C'était intéressant, assez pénible, mais très intéressant comme expérience. Mais ce qui était marrant, c'est que, et ça s'est produit plusieurs fois, c'est-à-dire qu'en séance publique, on m'a renvoyé ça à plusieurs reprises, le fait que ces scènes les heurtaient. À chaque fois, c'était des lectrices. Et qu'ensuite, vous savez, on faisait des dédicaces et les lycéens qui le souhaitaient pouvaient venir nous voir et nous parler de leurs sentiments par rapport au bouquin et avoir une dédicace. Et en catimini, ils venaient nous dire « Non, moi j'ai beaucoup aimé, c'est vachement bien !» Donc il y a un rapport aussi de l'intime et de l'extime, de l'un et du plusieurs, etc. Quoi. Voilà.
Qui parle beaucoup des vies que vous dépeignez aussi, d'une certaine manière.
Oui, mais exactement, voilà. Mais c'est vrai que là, j'avais oublié comment on est pudique quand on est ado. L'adolescence, c'est aussi le moment où on met le loquet dans la salle de bain, quoi.
Vous parlez de géographie tout à l'heure, Nicolas Mathieu. Je disais en introduction qu'il s'agissait d'une vallée imaginaire. Elle est évidemment non loin de vallées plus réelles.
On peut traverser l'histoire de l'industrie du fer, depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, sur une dizaine de kilomètres. Et on peut traverser l'histoire de l'urbanisme industriel, depuis le début du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, sur cette même longueur d'une dizaine de kilomètres. Donc caractérisé par des collines de 100, entre 100 et 200 mètres de hauteur, des vallées assez encaissées. Il n'y a pas un mètre carré dans cette vallée qui ne soit pas marqué par cette histoire industrielle. Il y avait une densité d'installations industrielles incroyable, extraordinaire. Et nous marchions sous les feux des convertisseurs. Le ciel était toujours rouge, c'était des milliers d'étincelles en fait. Les maisons étaient au pied des convertisseurs. Et il y avait en permanence sur les maisons une couche de poussière de 5 cm. Et les gens vivaient volés, fenêtres fermées. Le bruit était permanent. Les gueulards qui sifflaient, les aciéries qui hurlaient. Enfin, c'était le bruit de l'enfer. Et le ciel était toujours au mieux roux, parce qu'il y avait toujours cette poussière qui planait sur la vallée. Et souvent, un ciel d'enfer, quand les hauts fourneaux, les aciéries crachaient leurs étincelles et leur feu, le ciel était rougeoyant. Enfin, c'était un décor dantesque.
À l'usine, il avait obéi 40 ans. Ponctuel, faussement docile, arabe toujours. Parce qu'il avait vite compris que la hiérarchie au travail ne dépendait pas seulement des compétences, de l'ancienneté ou des diplômes. Parmi les manœuvres, il existait trois classes. La plus basse était réservée aux Noirs, aux Maghrébins comme lui. Au-dessus, on trouvait des Polonais, des Yougoslaves, des Italiens, les Français les moins dégourdis. Pour accéder au poste situé plus haut, il fallait être né hexagonal, ça ne se pouvait pas autrement. Et si, par exception, un étranger devenait OS ou accédait à la maîtrise, il demeurait toujours une aura de soupçon autour de lui, un je-ne-sais-quoi qui lui donnait tort d'avance. Le fonctionnement de l'usine n'avait rien d'innocent. On aurait pu penser de prime abord que l'efficacité décidait de la répartition des hommes, de l'emploi de leurs forces. Que cette logique-là, que cette brutalité-là, celle de la production et de la marche forcée suffisait. En réalité, derrière cet totem qu'on brandirait toujours plus haut à mesure que la vallée serait moins compétitive, il se trouvait tout un imbroglio de règles tacites, de méthodes coercitives héritées des colonies, de classements apparemment naturels, de violences instituées, qui garantissaient la discipline et l'échelonnement des humiliés. Et tout en bas, on trouvait Malek Bouali et les siens, frisés, bicots, bougnoules, négros, ces mots s'employaient largement. Au fil du temps, le mépris qu'on avait pour lui et ses semblables s'était fait plus dissimulé. il n'avait jamais disparu. Il avait même été promu. Mais il restait au fond de son ventre, comme un ragoût de colère qui avait brûlé 40 ans, peu importait à présent.
Alors d'abord, on entendait la voix de Marco Lénine au micro de Camille Jusa évoquer la vallée de Fensch. Et juste après, la voix de Jeanne Aléos lire un extrait de votre roman « Leurs enfants après eux », Nicolas Mathieu. Et je pense que c'est important qu'on revienne sur les traces des usines, sur même l'usine, et sur la place que chacun, plutôt de la génération des parents, y occupe. Alors d'abord, dire... À quel point vous avez dû travailler avec ces stigmates de l'industrie pour écrire ce livre-là ?
Finalement, le paysage industriel, il a été vraiment déterminant dans la construction, dans la prise du projet. Je dirais de la prise comme une mayonnaise prend, quoi. C'est-à-dire que je savais que je voulais parler de la fin de la classe ouvrière et d'adolescence. Ça, c'était là dès le départ. Et puis, je me documente, je cherche, je veux comprendre. Puis, je suis allé à Hayange pour la première fois, en fait. J'y étais jamais allé. Moi, je suis né dans les Vosges, j'habite en Meurthe-et-Moselle. Hayange, je suis en Moselle. Et ça m'a sidéré parce qu'en fait, j'imaginais, comme les usines automobiles, j'imaginais ça loin de la ville, les hauts fourneaux. Et en fait, les hauts fourneaux, ils se dressaient au milieu de la ville. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était comme le poumon rougeoyant de la cité. Tout y convergeait, mais ça se voit à l'œil nu, quoi. Il y a des tubes qui traversent la ville, il y a les routes qui y convergent, il y a le chemin de fer qui passe derrière pour amener le minerai et repartir avec le métal. Enfin, au moment où ce cœur-là cesse de battre, tout crève autour. Alors il reste ces magnifiques... squelettes de rouille, à l'ombre desquels les populations sont bien obligées de se démerder, quoi. Et puis, comme il le disait, le ciel était tout en rouge. C'est-à-dire que il y a cette ambivalence-là, et que moi j'ai vraiment vu, quand j'allais visiter des usines pour suivre ces fameux plans sociaux, c'est-à-dire que ce qui les a nourris, c'est aussi ce qui les a tués. Et je me souviens notamment d'un ouvrier qui me faisait visiter son usine, une usine de métallurgie. Et donc il y avait des énormes bobines de métal qui se dévidait à plus de 100 km/h comme ça, et qui me montre ça avec fierté. Il me dit, ici, on appelait cet endroit la boucherie des Ardennes, parce qu'en fait, c'est comme une lame de rasoir, quoi. Et des gens, ils perdaient la tête ou les doigts presque hebdomadairement. Et l'histoire de l'industrie, c'est aussi ça, quoi. Comment la production a dévoré des corps et comment on en a nourri d'autres. C'est un truc très ambivalent, hein. C'est-à-dire que les familles en vivaient et en crevaient.
D'ailleurs, dévorer des corps, pas que français. Et je pense que c'est important que ce soit la voix du père de Hassine qui arrive juste derrière, c'est-à-dire l'idée que ce cœur battant, dévorant, destructeur et nourrisseur à la fois, il a broyé plein de corps, en fait, plein de corps différents, et il les a réunis, ébroyés, réunis et divisés. Tout ça est très ambivalent. Quelle a été la place de ce duo d'hommes, le jeune Hassine et son père, dans la manière dont, je sais pas, comment ils se sont invités dans votre roman, Leurs enfants après eux?
Hassine, il est arrivé un peu comme Steph, c'est-à-dire que il y a une fête un jour, et puis il y a deux mômes de la ZUP du coin qui s'incrustent et qui pour foutre le bordel. Et je me suis dit, mais je peux pas les traiter juste comme ça.
Juste comme ça.
Qu'est-ce qui se passe pour eux? C'est quoi leurs enjeux, leurs désirs, leur histoire? Et puis une fois que je m'intéresse à Hassine, c'est comme avec Anthony. Il faut bien élucider qu'est-ce qu'il y a en amont, quoi, l'héritage dont il veut pas, qu'est-ce qui se passe pour les pères. Et là, on commence à... C'est comme un fil qu'on tire et tous des tricotes, quoi. Il faut remonter jusqu'en haut. Et puis, il y a un grand livre qui m'a quand même beaucoup, beaucoup travaillé pendant l'écriture du roman, c'est L'Établi de Roger Linhart, qui est donc l'histoire d'un sociologue qui, après mai 68, enfin, un étudiant en sociologie, qui était l'un des leaders de la gauche prolétarienne et qui va s'établir dans une usine Citroën pour vivre comme d'un ouvrier, quoi. Et il a écrit un bouquin, mais moi, qui m'a renversé, quoi. Et tant par son style que par son contenu, et qui raconte ça. La mesquinerie des chefs, la réification des gens à la chaîne, les solidarités, les corps épuisés comment la machine l'emporte sur l'humain et comment l'humain résiste toujours et dans un style qui est éblouissant. Et ça a vachement infusé le récit.
Et puis cette figure est importante, on l'entendait aussi dans la lecture de Jeanne, c'est que les méthodes qui sont là n'ont pas rien à voir avec des méthodes qui ont été utilisées pendant la colonisation. Et donc d'un seul coup, il y a aussi toutes ces bobines que vous tirez et leurs enfants après eux, c'est-à-dire que le livre se referme. Il y a aussi tout ce qui viendra après.
Ouais.
Et que vous n'écrivez pas, mais dont vous semez les graines patiemment dans le dernier chapitre. Bah, on ne dira pas ce dont il est question dans ce dernier chapitre, Nicolas Mathieu, parce qu'on va se quitter. Sauf si vous avez une dernière phrase.
Enfin, oui, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas commenter, parce qu'il y a comme une ligne de base dans un roman. Il y a des choses qui donnent à penser qui ne sont pas dites. Et si on les surligne, si on commence à les commenter, à les dire, ça tue le roman, en fait. Quand on restitue un monde, il faut que ce soit comme notre monde à nous, quoi. C'est que ça donne à penser et pas que ça pense soi-même.
Mais en même temps, ça veut dire que aussi ça peut être ouvert.
Ah oui, oui.
Je ne voudrais pas paraître la seule naïve et optimiste de la table, mais moi je vois aussi que ne pas tout clore, c'est dire que leurs enfants après eux, certes, mais peut-être pas toujours.
Absolument, oui. Alors, moi, je réfute fermement l'accusation de fatalisme. Il me semble que dans tout le roman, ça ne cesse pas de bouger. Et que quand on le ferme, il y a encore des portes ouvertes.
Et c'est très désirant. Enfin, je veux dire, la machine ne cesse pas de fonctionner.
La vie trouve toujours son chemin.
Merci beaucoup. Leurs enfants, après eux, c'est donc votre roman paru aux éditions Actes Sud, qui est... On va le dire, c'est le plus important sur la liste du prix du roman des étudiants de France Culture, mais surtout qui est le Goncourt 2018. Et on pourra voir à partir de demain, 15 novembre, sur France 3, l'adaptation en série de votre premier roman « Aux animaux, la guerre », cette adaptation signée Alain Tasma. Merci beaucoup, Nicolas Mathieu. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not Au son ce soir, et donc dans le stade, il y avait Jacques Hubert et Jordan Fuentes à la réalisation Perret le Gras. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Quand vous voulez, sur franceculture.fr, vous pouvez trouver la liste des musiques diffusées, celle des archives, les références bibliographiques de ce roman, celui d'avant, et puis aussi un endroit pour vous abonner au podcast. Et nous écrire un très grand merci à Jeanne Aléos, à Lou Que Vous Viez, Romain de Bec de Lièvre, Amélie Perrault, Anna Baron, Marianne Chassor, qui m'aident à penser et préparer cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée sur France Culture. Amen.